Merci Yves. Bonjour à tous. Good morning. Ni hao. Sabah el khair, je crois. J'avais prévu de faire ma présentation en anglais. Je vais la faire plutôt en français. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter rapidement UPR Info. Ensuite, je vais essayer de vous convaincre de l'utilité de votre travail, car l'examen périodique universel, sans vous, il n'a aucune chance d'aboutir. Donc votre implication, elle est, tout comme dans le premier cycle, importante, voire peut-être même beaucoup plus importante que lors du premier cycle. Sans plus attendre, je vais présenter UPR Info rapidement. Nos objectifs, ils sont de fournir tous les documents, tous les outils possibles à la société civile, aux ONG, donc bien sûr, aux États, aux académiques, enfin à tout type de personne qui veut s'engager sur l'EPU. On garde l'esprit universel de l'EPU dans toute notre démarche, ce qui veut dire qu'on travaille sur tous les États avec tous les types d'acteurs. D'autre part, on fait un gros travail de sensibilisation à l'EPU. On essaye de travailler aussi avec des journalistes pour que le mot de l'EPU se retrouve le plus souvent dans les journaux. Comment est-ce qu'on le fait ? On publie différents types d'explications, d'analyses, de documents qui nous sont fournis par toute la société civile, par les États. On en produit nous-mêmes. On vient de publier hier « On the Road to Implementation », qui est un document qui passe en revue 66 États sur la mise en œuvre à mi-parcours. Je vais avoir l'occasion d'entrer plus en détail tout à l'heure. On fournit également des tutoriels vidéo. Donc c'est une formation en ligne qui est offerte sur notre site où l'on peut découvrir quelles sont les modalités d'engagement à l'EPU. Mais j'ai cru comprendre que de toute façon, vous êtes tous suffisamment familiarisés sans que j'aie besoin d'aller dans les détails avec l'EPU. Rapidement, pour passer en revue l'un de nos joyaux, la base de données des recommandations de l'EPU qui contient 21 353 recommandations plus 600 engagements volontaires. Cette base de données, elle doit vous être utile dès que vous vous engagez à l'EPU. Elle vous permet d'aller directement chercher les recommandations qui vous concernent, qui concernent le domaine dans lequel vous travaillez. On a mis à disposition également différents outils sur cette base de données qui vous permet d'exporter sous format Excel les recommandations que vous auriez sélectionnées, également de faire un lien pour retrouver par la suite vos recommandations. On a également des outils statistiques qui peuvent être très utiles lorsque vous avez des rapports à faire, savoir quel pays fait quel type de recommandations, sur quel sujet, quel pays reçoit quel type de recommandations, sur quel sujet, quelle région aussi reçoit des recommandations. Donc, dans toute votre activité de lobbying, je dirais que ça peut se révéler un outil extrêmement utile. Alors, je vais rapidement aborder les défis que pose le second cycle. On s'est aperçu que certains États reçoivent un nombre invraisemblable de recommandations. Les États-Unis ont reçu 280 recommandations. Comment faire lorsque on est État examiné pour suivre 280 recommandations ? Bon, les États-Unis, ça fait partie des pays qui ont les moyens pour investir dans les droits de l'homme, on va dire, pour avoir un staff, pour avoir une équipe qui s'occupe des droits de l'homme. Mais l'Iran est par exemple à 210 recommandations également et n'investit pas dans la même mesure dans les droits de l'homme. Autre problématique qui se pose, comment est-ce que pour les États qui ont fait les recommandations, comment est-ce qu'ils peuvent suivre ces recommandations ? Il y a grosso modo 160-165 États qui sont actifs à l'EPU. Si on divise les 21 353 recommandations par ces États qui sont actifs, ça veut dire 140 recommandations, tout en sachant qu'il y a des États qui en ont fait 10 au total dans, dans le premier cycle. Mais 140 recommandations à suivre sur des pays aussi variés, puisque l'examen périodique universel s'occupe de tous les pays, ça représente un véritable défi pour les États qui ont fait les recommandations. Et c'est aujourd'hui criant d'actualité, parce que c'est des questions que se posent tous les États qui ont fait les recommandations. Et puis enfin, troisième problème, comment est-ce que l'on peut commenter toutes ces recommandations que l'on a reçues? Il faut savoir que durant le deuxième cycle, les États qui vont être revus doivent expliquer comment est-ce qu'ils ont mis en œuvre les recommandations durant les 4 années écoulées. Quand vous avez 280 recommandations, comment est-ce que vous faites de manière pratique, dans un rapport qui est censé faire 20 pages au maximum, pour parler des 280 recommandations, de leur mise en œuvre, et surtout de la situation actuelle, quelles sont les nouveautés dans le pays qui ne sont pas forcément liées aux recommandations. Donc, nous, on a quelques idées là derrière. On essaye de travailler en coordination avec les États pour leur proposer des solutions. Mais il y a autant d'avis que d'États différents, donc ce n'est pas gagné d'avance. Ensuite, d'autres défis qui se posent avec acuité, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque un État décide de ne pas coopérer? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un État, donc, même s'il a accepté la recommandation, puisque en théorie, bien que ça ne soit pas prévu dans les textes légaux, un État, la pratique s'est établie que les États rejettent un certain nombre de recommandations. Donc qu'il l'ait accepté ou qu'il l'ait refusé, qu'est-ce qui se passe 4 ans plus tard lorsque les États ont envie de refaire la même recommandation? Pour l'instant, rien n'a été réellement discuté. On est en train d'assister pour la première fois, et contrairement au mois de mai, à cette EPU, à cette session actuelle, la 14e session, on remarque que les États qui font les recommandations reviennent à la charge avec leurs recommandations. Ils viennent dire, mais on vous a déjà fait la recommandation la dernière fois, on vous demande à nouveau de mettre en œuvre. Cependant, le flou est total sur qu'est-ce qui va se passer au troisième cycle, éventuellement, si l'État n'a toujours pas mis en œuvre la recommandation 8 ans plus tard. Parce que là, on commence à être dans un délai relativement long. On sera aussi dans une plus grande expertise. On ne peut pas dire que c'est la première fois, l'UPR, on ne le connaît pas, etc. On ne pourra pas se voiler la face à ce moment-là. Ensuite, un souci, je dirais, qui est très personnel à UPR Info, comment augmenter la qualité des recommandations? On a des outils qui nous permettent d'évaluer la qualité des recommandations. On leur donne une note entre 1 et 5. En réalité, seule la catégorie 5 est la plus intéressante puisqu'elle est spécifique. Donc on ne demande pas à l'État simplement d'améliorer la situation des droits de l'homme dans son pays, mais on lui demande de prendre des mesures, par exemple, pour améliorer les conditions de détention dans la prison X. Et c'est ces recommandations-là qu'on essaye de promouvoir, parce qu'on reste persuadé qu'une recommandation sur laquelle on ne peut pas dire 4 ans plus tard qu'elle a été mise en œuvre ou pas, elle ne sert grosso modo à rien. Les États vont avoir une autre position là-dessus, parce que ces recommandations répondent aussi à des soucis politiques. Moi, à titre personnel, je reste persuadé que nous, en tant que société civile, on doit se concentrer sur des recommandations spécifiques pour pouvoir en travailler. Ensuite, si l'État édulcore la recommandation, c'est son problème. Mais nous, en tant que société civile, on doit exiger le maximum pour avoir un tout petit peu. Et puis, troisième défi, c'est d'encourager les États à faire des rapports à mi-parcours. Donc, c'est ces rapports qui sont réalisés sur une base volontaire entre deux EPU. Et la réponse que l'on a à ce point-là, c'est le programme de suivi des recommandations que je vais vous présenter maintenant. Alors, le programme de suivi des recommandations a commencé en juin 2011. Il a pour objectif de montrer ce qui a été réalisé à mi-parcours par l'État. On essaye de s'y prendre à l'avance, donc 2 ans avant le prochain EPU, pour qu'au moins l'État commence à faire quelque chose. Parce que pour beaucoup d'États, on se dit on attendra, les recommandations c'est dans 4 ans dont on doit se préoccuper. Non, les recommandations, une fois sorties de Genève, il faut commencer à en discuter. Donc c'est un moyen aussi d'encourager les États à mettre en place des structures de suivi des recommandations, de produire des rapports de surveillance sur la mise en œuvre des recommandations. Ce programme de suivi implique tous les acteurs. Jusqu'au mois de juin, on avait les ONG, les États et puis les institutions nationales de droits humains. Aujourd'hui, on a aussi les agences onusiennes qui participent. Donc on a UNICEF, on a UN, en français je ne sais plus le dire. Enfin bref, on a différentes agences onusiennes qui participent au programme de suivi. Et le résultat visible, palpable, je dirais, de ce programme de suivi, c'est le rapport à mi-parcours que l'on établit sur tous les pays. Donc on en a fait 66, enfin maintenant on en est plutôt à 75, qui permet d'avoir une vue générale sur la mise en œuvre des recommandations sur un pays X ou Y. Selon les commentaires que l'on a pu recevoir des différentes parties prenantes, on va être en mesure de dire que la recommandation a été mise en œuvre soit partiellement, soit totalement, ou soit pas du tout. On a retenu trois niveaux, le niveau partiellement étant évidemment le plus usité, mais il veut dire au moins que l'État a commencé à faire quelque chose. Donc l'ONG qui a participé, par exemple, ou l'institution, nous ont dit « oui, l'État a commencé à faire quelque chose, mais ce n'est pas satisfaisant. » Ou « il n'est pas allé jusqu'au bout. » Complètement mise en œuvre, c'est un niveau qui correspond de manière générale surtout aux ratifications d'instruments internationaux, parce qu'il est beaucoup plus facile de dire à une recommandation qui dit ratifier tel ou tel instrument international, si l'État l'a ratifié, c'est OK, s'il ne l'a pas ratifié, ben, ce n'est pas du tout mis en œuvre. Il n'y a pas de milieu. Mais au-delà de ces recommandations relativement claires, il y a tout un panel de recommandations qui sont très très difficiles à pouvoir évaluer est-ce que l'État a vraiment pris en compte cette recommandation. Donc pour l'instant, comme je vous le disais, on a officiellement 66 Midterm Implementation Assessments. On a reçu les contributions de 253 ONG, de 6 institutions nationales de droits humains et puis de 7 États. Donc aujourd'hui, on a en plus à rajouter 5 agences onusiennes. Les résultats, parce que c'est ça qui compte aussi et qui est très encourageant, à mi-parcours, 40% des recommandations ont déclenché une action de la part de l'État. Comme vous le voyez sur le graphique, donc on retrouve ces différents niveaux dont je vous ai parlé, partiellement mis en œuvre, non mis en œuvre, complètement mis en œuvre et no clear position, parce que le commentaire que l'on a reçu ne nous permettait pas de savoir si l'État avait engagé une action ou pas. Donc 28% des recommandations sont partiellement mises en œuvre, 12%... Pardon ? I speak. Sorry?
On continue.
Je parle. Ouais. Ok. Donc. Hein? Ah. Ok. It's ok?
Plus lentement?
On va y aller plus lentement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour 40% des recommandations, à mi-parcours, donc c'est seulement 2 ans après le PU, rappelez-vous, c'est 4 ans au total dont dispose l'État pour mettre en œuvre les recommandations, à mi-parcours, il y a 80% des recommandations qui ont déclenché une réponse de l'État. 12% où l'État a totalement mis en œuvre la recommandation et 28% où il a engagé une action. Ces chiffres sont basés sur un programme qui est assez massif. Il faut savoir, on a passé en revue 6500 recommandations et sur ces 6500 recommandations, on a reçu 3294 commentaires. En réalité, on peut facilement multiplier par 2 ou par 3 le nombre de commentaires parce qu'on peut avoir pour une même recommandation 2-3 organisations qui nous répondent. Mais sur 3300 recommandations, on a une réponse nous disant ce qui a été fait depuis 2 ans. Alors, les régions... Ça, c'est un graphique que j'évite en général de montrer aux pays européens parce que on a déjà eu des discussions et ça les fâche. Mais en réalité, où fonctionne le plus le PU, c'est dans les pays de l'Est européen. Donc, c'est pas les pays proprement occidentaux, c'est des pays comme la Roumanie où le PU a vraiment très très bien fonctionné. L'Amérique du Sud, où ça fonctionne très bien, et ensuite il y a aussi les pays occidentaux. Et le grand absent, il faut bien le dire, de cette mise en œuvre des recommandations, c'est le continent asiatique. Déjà, pour une raison, c'est que la société civile semble être un peu moins organisée que dans d'autres régions du monde. Par exemple, en Amérique du Sud, la société civile est très forte, très puissante, mais elle est peu organisée. Et en Afrique, avec 40% aussi de mise en œuvre à mi-parcours, c'est un signe qui est plutôt encourageant. Donc, comme on peut le voir, en fait, c'est plutôt l'Asie qui traîne par rapport aux autres régions du monde, puisque le PU prouve, puisqu'on se base, encore une fois, en majorité sur des informations de la société civile, donc c'est des défenseurs des droits humains, tout comme vous, qui nous communiquent ces informations, les résultats, ils sont quand même plutôt, plutôt intéressants. Alors, quelques mots sur... c'est relativement technique, mais c'est intéressant à savoir, surtout, ça permet d'introduire une notion intéressante. C'est quelle est la réponse qui est donnée à une recommandation. Elle peut être acceptée, une réponse générale, donc on ne comprend pas très bien ce que dit l'État, elle est rejetée ou l'État ne répond pas du tout. De manière assez peu surprenante, on se rend compte sur ce tableau que les réponses qui sont... que lorsque un État donne une réponse positive à la recommandation, il a plutôt tendance à la mettre en œuvre. C'est pas très étonnant, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que 14%, presque 15% des recommandations rejetées ont déclenché une action de l'État. Il y a un exemple qui est célèbre chez UPR Info, c'est le cas de la Chine, qui a rejeté systématiquement toutes les recommandations qui étaient liées à la peine de mort, y compris des recommandations qui demandaient à la Chine de diminuer le nombre de cas menant à la peine de mort. Et au final, la Chine a diminué le nombre de cas menant à la peine de mort. Donc c'est quelque chose de fou, parce qu'on voit, lors de l'EPU, la Chine se braquer, parce qu'elle a relativement l'habitude de recevoir des invitations à abolir la peine de mort. Mais dans le même temps, 2 ans après, elle s'est conformée en partie, hein, il faut pas non plus, on aimerait tous que la Chine abolisse la peine de mort, mais elle s'est conformée en partie quand même à ces recommandations qui lui ont été faites. Donc, on essaye de pousser la société civile à suivre autant que possible, et les États aussi, pas seulement la société civile, mais tout le monde, à suivre les recommandations qui ont été rejetées. On le fait pour 3 raisons. C'est qu'une recommandation rejetée a toutes les chances du monde de revenir sur la table 4 ans plus tard. Ce n'est pas parce qu'un État rejette une recommandation que la communauté internationale ne souhaite pas voir cet État aller dans cette direction. Ensuite, il faut savoir que certains États n'ont accepté que 3 recommandations sur 140 pour le cas d'Israël. Donc si on se focalise que sur les recommandations qui sont acceptées, le PU peut être en danger, parce qu'un État pourrait décider de n'accepter que 10 recommandations sur les 280 qui lui sont faites, et le PU n'a plus aucun intérêt si on ne se focalise que là-dessus. Et encore une fois, les textes légaux ne prévoient pas qu'un État puisse rejeter une recommandation. On parle de recommandation acceptée, mais le mot rejeté ne figure pas dans la résolution 5.1 ou dans la résolution de la révision du Conseil. Donc il n'y a aucune base légale qui existe pour le rejet de la recommandation. Et puis la troisième raison, c'est qu'au final, il y a des recommandations qui sont mises en œuvre. Donc il n'y a pas de raison que tout le monde ne travaille pas sur les recommandations rejetées. Ensuite, brièvement, pour vous présenter ce qui se voit le plus lors du premier, ce qui s'est vu le plus lors du premier cycle, c'est des recommandations qui tournent autour des instruments internationaux, des femmes et puis des enfants. C'est les trois recommandations qui ont le plus de succès en termes de nombre, hein, c'est là qu'il y a le plus de recommandations qui sont faites. Et assez peu étonnamment, on retrouve dans la mise en œuvre des recommandations ce même type de recommandations qui sont mises en œuvre. Donc les droits des femmes, les instruments internationaux et droits des enfants sont les recommandations les plus mises en œuvre. La réponse, elle est simple, à savoir pourquoi est-ce que c'est ces recommandations-là qui sont le plus soulevées et le plus mises en œuvre. C'est les recommandations qui, au final, font le moins débat. C'est les recommandations qui, en tant qu'État qui fait les recommandations, c'est le coût politique à faire ce type de recommandations n'est pas très élevé. Vous n'allez pas choquer un État lorsque vous lui demandez d'améliorer la prise en charge des enfants à l'école. Il n'y a aucun État qui va s'offusquer de ce type de recommandations. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est ces recommandations-là qui sont le plus soulevées lors de l'EPU et qui se retrouvent assez naturellement les plus mises en œuvre au final. Ah oui, si jamais tous ces graphiques figurent dans l'étude que j'ai mis à votre disposition... là-bas. Donc vous pouvez en prendre des exemplaires. Alors pourquoi vous, en tant que société civile, vous avez intérêt à vous engager dans le suivi des recommandations? Tout d'abord parce que ça permet de demander des comptes à l'État. Ça permet de pousser l'État à réfléchir sur comment mettre en œuvre les recommandations. L'examen périodique universel, c'est pas juste une rencontre à Genève entre diplomates qui se disent des choses bien entendues. C'est une opportunité pour vous, défenseurs de droits humains, une fois de retour chez vous, pour engager une discussion avec l'État. Je sais que dans tous les États, ça ne va pas fonctionner. Mais les exemples sont vraiment très nombreux dans l'examen périodique universel de défenseurs qui se sont mis, de société civile qui s'est mise à discuter pour la première fois avec son État, grâce à cette opportunité qu'offre l'examen périodique universel. Donc vous engagez dans le suivi des recommandations, ça vous permet de participer à des réunions, c'est quelque chose qu'on voit énormément en Afrique par exemple, grâce à l'examen périodique universel, on voit des défenseurs qui participent avec l'État à réfléchir sur comment mettre en œuvre les recommandations. Ça vous permet également d'avoir un prétexte d'engager de nouveaux défenseurs droits de l'homme dans le processus. Plus que dans aucun autre mécanisme, je crois, l'examen périodique universel demande à ce que la société civile soit organisée. Si vous-même, vous avez l'habitude de travailler, par exemple, sur le droit des femmes, dans le cadre de l'examen périodique universel, vous avez tout intérêt à vous engager avec des collègues qui travaillent sur d'autres thématiques. Engagez-vous avec des gens qui travaillent sur le droit des enfants, sur la torture, etc. Parce que ça prend vraiment tout son sens. Et croyez-moi, les discussions qu'on peut avoir avec le Haut-Commissariat, qui est chargé de faire le rapport, l'un des trois rapports, qui est la base de l'examen périodique universel, qui est la compilation des informations données par la société civile, ils ont besoin, eux, de rapports de qualité, de rapports qui s'occupent de tous les types de droits dans le pays. Donc, on a tout intérêt, dans l'examen périodique universel, à s'unir. Ensuite, c'est aussi un moyen de penser à vos collègues d'autres pays. Parce que ce qui marche chez vous ou ce qui n'a pas marché chez vous peut être riche d'instructions pour des défenseurs d'autres pays. À travers le programme que l'on mène de suivi des recommandations, on partage ces informations avec d'autres défenseurs. Donc ce que vous pouvez nous dire, eh ben on peut le transmettre à d'autres défenseurs pour avoir des pistes, pour avoir des idées. Et puis enfin, de participer au suivi des recommandations, ça vous permet de faire parler autour de la population de l'examen périodique universel. C'est une occasion en or d'être extraordinairement précis, d'extraire 2-3 recommandations de la centaine qui a été faite à votre État, et puis de vous engager dans raising awareness, dans la sensibilisation, merci, dans la sensibilisation de la population. Quels sont les résultats principaux de ce programme de suivi? C'est tout d'abord le Midterm Implementation Assessment, ce rapport à mi-parcours que nous établissons, sur la base duquel on a pu faire un document adressant 66 pays à la fois. On partage les informations que vous nous transmettez avec la communauté internationale. Ça veut dire que tous ces rapports que l'on émet, on les envoie à tous les diplomates à Genève. Tous les États qui ont pris la parole sur votre pays, ils sont au courant de ce qui se passe à mi-parcours. Et c'est important pour ces États qui ont eu aussi une responsabilité dans le suivi des recommandations de savoir ce qui se passe dans votre pays, parce qu'ils peuvent contacter leur ambassade dans votre pays et ils peuvent contacter l'ambassade dans votre pays et puis voir avec eux pour collaborer avec l'État, avec le gouvernement. Donc c'est un moyen aussi pour nous, quelque part, de sensibiliser les États qui font les recommandations et de les pousser à se saisir de ce mécanisme. Mais pour cela, on ne le dira jamais suffisamment, sans vous, qui êtes proche du terrain, on ne sert à rien. Donc on est uniquement le résultat de votre travail, rien d'autre. Et puis, c'est également intéressant de savoir que dans plusieurs pays, les ONG qui ont participé à ce programme de suivi des recommandations ont utilisé le rapport final que l'on a effectué dans leur travail de plaidoyer. Dans leur travail de plaidoyer. Donc ils sont allés voir l'État, ou ils sont allés voir les différents pays qui ont fait les recommandations et qu'eux, ils ont commenté, pour leur dire, écoutez, vous avez fait cette recommandation-là, par exemple, si on parle des pays qui ont fait les recommandations, vous allez voir, vous avez fait cette recommandation X, moi je peux vous dire, regardez ce document, moi je peux vous dire que ça n'a pas été mis en œuvre. Est-ce qu'on peut commencer à travailler ensemble? Et ça s'est révélé assez intéressant dans des cas pour la Corée du Sud, pour le Belize, pour enfin il y a différentes organisations qui ont utilisé ce document pour pouvoir pousser plus loin ce qu'ils ont l'habitude de faire, surtout que ce document contient des informations qui ne viennent pas seulement d'une ONG, mais qui viennent de plusieurs ONG, parfois d'institutions différentes et même parfois de l'État. Donc, rapidement, comment participer? UPR Info contacte de manière automatique toutes les ONG qui ont soumis un rapport lors du premier cycle. Et à mi-parcours, on se charge d'essayer de trouver les contacts. Ce n'est pas toujours facile parce que dans les rapports ne figurent pas les emails, les téléphones de tout un chacun. Donc, on fait un véritable travail de détective pour trouver les bonnes coordonnées. Mais de manière générale, on arrive à contacter la plupart des défenseurs qui ont participé au premier cycle. Et si vous n'avez pas participé, parce que le programme, il est ouvert, il est aussi ouvert qu'à l'examen périodique universel. À l'examen périodique universel, comme vous le savez tous, tout le monde peut participer. Un individu, une ONG, une université, tout le monde peut soumettre. Il y a déjà des individus qui ont soumis en leur nom personnel un rapport au commissariat. Donc si on ne vous a pas contacté, il n'y a aucun souci, donnez-nous vos coordonnées, envoyez-nous un email, c'est avec grand plaisir que l'on vous fait participer à mi-parcours à ce programme de suivi. Donc, me basant sur la liste que j'ai reçue des participants et des pays, en fait, des différents participants, j'ai identifié que 4 pays qui seront revus l'année prochaine, en 2013, dans le cadre de notre programme de suivi des recommandations, qui sont le Danemark, le Libéria, la Mauritanie et la Mongolie. Alors, figurent les, les deadlines, les dates butoirs pour la soumission d'une contribution. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas soumis au premier cycle, mais vous souhaitez participer à ce programme, il faudra essayer de me contacter quand même en début d'année pour la Mongolie et le Libéria ou la Mauritanie au mois d'avril, mai, etc. Parce que grosso modo, on contacte les ONG 3 mois avant, on donne aux ONG 3 mois pour nous commenter les recommandations qui les concernent et sur lesquelles elles souhaitent prendre position. Quelques petits mots, je vais essayer d'être bref parce que j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, je m'en excuse. Quelques petits mots sur la 13e session parce que c'est la première session du deuxième cycle. Et ce que l'on a remarqué, c'est que les États qui ont été revus ont relativement peu parlé, insuffisamment parlé de leurs précédentes recommandations. C'est-à-dire, grosso modo, ils ont parlé de 85% des recommandations et bien souvent, c'était quelques rapides lignes. Donc, il faut vraiment aujourd'hui que l'on pousse tous les États à répondre à chacune des recommandations. Chaque recommandation compte. Il faut savoir qu'à l'EPU, à l'EPU, il y a une quinzaine de recommandations qui sont contraires au droit international, ce qui ne représente absolument rien sur la masse de recommandations, sur 21 000 recommandations, ça ne représente absolument rien. Donc toutes les recommandations comptent à l'EPU. Et dernier point, beaucoup d'États déclaraient avoir mis en œuvre leurs recommandations. On a beaucoup de doutes. Moi, je me suis dit, en regardant les chiffres et en regardant les commentaires des États, si ça reflète vraiment la réalité, moi, je change de travail. Il n'y a plus besoin de gens qui font mon travail parce que c'est merveilleux, le monde a changé. On a besoin de l'implication de la société civile pour que le monde entier sache ce qui se passe dans votre pays. Donc vraiment, sans vous, l'examen périodique universel, il est voué à disparaître. Voilà. Merci.